Culture Club, une émission présentée par Victor Loupan.
Bonjour à tous, Culture Club, spiritualité aujourd'hui, mais pas que spiritualité, c'est une façon un peu spéciale de parler non seulement de spiritualité, mais aussi d'histoire, de vérité, de sacrifice, d'amour, notamment d'amour des enfants. On va parler BD, mais les auteurs sont restés pas dire non, on va parler de roman graphique. En fait, c'est le roman graphique, en fait, c'est une autre façon de dire bande dessinée, on va en parler. Donc c'est une histoire extraordinaire, une histoire que ceux qui sont un peu plus âgés connaissent par le fil de Louis Malle. Et le roman graphique s'appelle aussi Au revoir les enfants. Et les auteurs que je salue ici sont pour les dessins Jean Trollet, bonjour monsieur. Et pour le scénario Camille Deprévost, bonjour madame.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio Notre-Dame. Avant d'attaquer, voilà, Au revoir les enfants. Bon, le film est déjà un peu vieux. Nos auditeurs plus âgés peut-être l'ont vu, mais les jeunes ne connaissent pas. Et vous dites la véritable histoire du père Jacques, prêtre déporté juste parmi les nations. Voilà, donc il s'agit d'un prêtre français pendant la guerre. Et comment c'est parti? Est-ce que vous avez d'abord écrit le scénario, Camille Deprévost?
Oui.
Et ensuite
oui.
vous avez d'abord écrit le scénario?
J'ai d'abord écrit le scénario. En même temps, j'ai dessiné le storyboard, donc ouais. Cadre par cadre, comme dans un film.
Vous avez dessiné vous-même le storyboard?
Oui.
D'accord.
Oui, c'est un avantage parce que...
Vous avez dessiné.
Voilà, je peux visualiser tout de suite.
D'accord.
Les scènes, les plans... Donc, au départ, c'était mon idée. Et puis ensuite, Jean a fait une présentation de quelques planches. Et puis, on a cherché un éditeur.
Alors, comment vous êtes intéressé à ce prêtre? Non, vous.
Nous l'avons découvert tous les deux avec Jean. Chez les Carmes des Chaux.
Vous n'aviez pas vu le film de
Marc? Non,
de
moi, je ne connaissais pas du tout le film.
Moi, je l'ai vu, mais il y a assez longtemps, en fait. Hein.
Parlez plus fort dans le micro. Hein. Allez-y, madame.
Et donc, je l'ai découvert chez les Carmes des Chaux et je me suis intéressée à ce personnage. Donc, j'ai beaucoup lu sur lui. Et j'ai découvert aussi un lien très fort avec la Pologne parce que je suis d'origine polonaise. Mmh. Et ça m'avait interpellée. Et il se trouve que cet homme a fait énormément dans les camps pour les prisonniers polonais qui étaient très très nombreux au camp de Mauthausen. Mmh. C'était surtout les insurgés de Varsovie, les résistants, beaucoup d'intellectuels. Et c'était le père Jacques était le seul prêtre en fait à Mauthausen parce que tous les autres allaient à Dachau.
Pourquoi vous dites que vous êtes polonaise? Pourquoi? C'est à cause de Korczak? C'est à cause de ça?
Non, pas du tout. C'est que je suis d'origine polonaise et j'ai vu que ce père Jacques n'est pas du tout connu en Pologne, alors qu'il a tellement fait, il s'est tellement dépensé pour tous ces gens d'origine étrangère. Il a même appris un peu le polonais. Et je me suis dit, bah, voilà, ça m'a touchée. Et quelque part, c'est une sorte de dette que je paye.
Très bien. Et comment vous êtes pris, Jean Trollet? Est-ce que vous connaissez l'histoire?
Oui, bien sûr.
Parce que vous avez vu le film?
Oui, j'avais vu le film, mais le film ne raconte pas l'histoire du père Jacques.
Je sais, c'est justement pour ça que je vous en parle, justement. Il raconte une toute petite partie, en fait.
Voilà, hein. C'est juste la partie de l'arrestation qui est très bien faite, du reste.
Ah oui, bien sûr.
Qui est très émouvante.
Bien sûr.
On sent que c'était vécu par lui-même, parce qu'il était...
Il était élève dans cette école.
Il avait 12 ans et... Le personnage principal, c'est un peu Louis Malle lui-même, quoi. Mais donc, ce qui m'intéressait, c'était qu'est-ce qui se passait avant et après. Parce que là, on ne savait pas. Et c'est ce qu'on a découvert en fréquentant le Carmel. On a découvert qui était réellement le père Jacques.
Alors, qui il était?
Ah ben... faut lire la BD.
Non, racontez-nous. Qu'est-ce qui vous a inspiré?
Bah, c'est un personnage, c'est un homme extraordinaire, quoi. Déjà, première chose à dire, c'est ça. Et c'est un prêtre tout à fait hors du commun.
Il est né en 1900, c'est ça, il devient prêtre, puis religieux, et puis la guerre commence, il a ses enfants juifs qui sont dans son école.
Ça
c'est l'histoire que tout le monde connaît.
Ça, c'est celle que tout le monde connaît, mais en fait, il est très très pauvre. Il est né dans un milieu très très pauvre, un milieu ouvrier, à Barentin, en Normandie, et il a eu très tôt la vocation. je crois qu'il a commencé le séminaire, il avait, enfin en tout cas, il voulait le faire déjà à 12 ans. Et puis après, ben, il a continué sa carrière, hein, rempli sa carrière au sein de l'Église.
Sa vocation, plutôt.
Sa vocation, oui, bien sûr. Et bon, après, il est devenu carme parce qu'il avait la volonté de se pas retirer du monde, mais disons, d'avoir une vie contemplative plutôt. Finalement, ça a été bien le contraire. Sa vie était très, très riche en beaucoup de choses. Et puis, en fait, ce qu'on ne montre pas dans le film, pas suffisamment, c'est qu'il était... Parce que surtout, le film est connu parce qu'il a, sauvé des juifs, des enfants juifs. Mais en fait, il était dans un mouvement de résistance tout à fait officiel. Et il travaillait pour la résistance. Et ça, c'est presque pas montré dans le film. Donc,
sa vie tous les jours, hein.
Voilà, il risquait sa vie. Ils ont sauvé beaucoup de gens. Voilà, c'est ça qui nous intéressait aussi. Et qu'est-ce qui se passe après ? Ben après, c'est...
Oui, oui. Camille de Prévost, mais est-ce que, par exemple, quand vous avez écrit l'écrit du scénario, le livre fait plus de 100 pages, hein, et ça fait 130 pages, quoi.
Oui, donc,
c'est pas une petite BD. Moi, je suis un gros lecteur de BD, mais c'est pas une petite BD. C'est en effet un roman graphique. Mais en quoi est-ce que l'enfance, la jeunesse, disons, de ce prêtre l'a préparé à devenir un héros, un juste parmi les nations? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque chose dans sa vie qui menait à ça, ou bien le chemin de la sainteté? C'est un sûr de chemin de la sainteté, quand même, hein.
Moi, je pense qu'il y a une logique incroyable dans sa vie, du début à la fin. Je ne sais pas, peut-être son enfance assez difficile, pauvre, les humiliations, peut-être ça a joué, mais je crois qu'il y a une sorte de logique implacable. Et ce qui m'a aussi beaucoup inspirée dans cette vie, enfin, en lisant ses lettres, celles qui sont disponibles, bien sûr, et ses écrits, c'est quelqu'un qui s'est posé... tout le long de sa vie, il s'est posé une question fondamentale. Qu'est-ce que cela veut dire être un homme? Et il s'est posé cette question aussi dans les camps. Et je pense qu'il y a répondu d'une manière magistrale, impressionnante.
Mais restons un petit peu avant les camps.
Dans l'enfance, parce
qu'il y a avant les camps, il est passé par les mouvements scouts, etc.
Oui.
etc. Et est-ce que, par exemple, il était déjà conscient de la question juive avant ou pas du tout? Il a rencontré ça comme beaucoup de gens pendant la guerre, hein, c'est sûr.
Ah, oui,
c'était
en fait,
pendant
oui,
la guerre,
sûr,
ouais.
Rien de le préparer à ça.
Je
ne
pense pas
rien.
Qu'il divisait les gens entre juifs et non-juifs.
Oui, exactement.
Bah, c'était quelqu'un qui pouvait parler à tout le monde. Il n'avait pas de préjugés, il était ami avec les communistes, avec les aristocrates. Enfin, il n'y avait vraiment pas de frontières. Et c'est ce côté universel qui est fabuleux chez lui. Et ça peut parler aux lecteurs d'aujourd'hui aussi.
Quoi qu'avec les aristocrates, il a mis un peu de temps.
Il a vécu ça aussi.
Comment est-ce que vous avez procédé pour écrire le scénario? Est-ce que vous avez d'abord étudié sa vie en détail, ou bien est-ce que vous êtes parti plutôt d'une émotion ou quelque chose?
D'abord, un an de recherche.
Un an de recherche, c'est formidable, sérieux. Ça voilà. Se sent. Hein.
Ah ben, merci.
Un an de recherche et l'écriture du scénario, 3 mois.
Et vous l'avez écrit comme un scénario de film, c'est ça?
15 heures par jour,
ah, ouais.
En 3 mois, tout en dessinant le storyboard. Donc et j'écoutais en boucle la forêt spirituelle et morale de Monteverdi. Ça m'a aidé.
Ton inspiration.
Ça. Oui, mon inspiration. Ouais.
Et votre travail, Jean Trollet, est un travail, moi, je trouve assez remarquable.
Ouais, c'est
en noir et blanc, c'est très beau, c'est vraiment très beau. Il y a une belle maîtrise, etc. Mais vous avez fait quand même un travail assez réaliste. Comment vous avez procédé? Vous êtes allé voir les photos de l'époque? Comment vous avez fait?
Oui. Enfin...
Est-ce que, par exemple, là, je regarde, il y a un coin de rue, là, le Havre. Est-ce que c'est vraiment le coin de rue?
Oui, j'ai cherché le Havre, des photos du Havre à l'époque.
À l'époque,
bien sûr.
Oui, c'est très sérieux.
Il n'y en a pas tellement, donc j'ai pas mal cherché. Oui. C'était important de reconstituer vraiment l'atmosphère. En 1920, le Havre, c'est 1920, je crois que c'est ça, la date,
c'est
dans les années 20. Et à quoi ça ressemblait, quoi? Parce que évidemment, maintenant, c'est plus du tout la même chose.
Et comment vous procédez au film? Parce que bon, la scénariste a déjà fait un storyboard, je suppose, assez schématique. Et ensuite, est-ce que vous êtes parti du storyboard, ou bien vous avez laissé tomber le storyboard, vous avez fait le vôtre?
Non, je suis parti du storyboard. à savoir qu'on en a discuté après.
Parfois, voilà, il y avait des plans.
Il y a des choses que j'ai pu changer.
Surtout les scènes de guerre où il fallait aussi adapter.
On l'a adapté ensemble. Voilà, oui, c'est un travail qu'on a fait ensemble après, par la suite.
Est-ce que les personnages, par exemple, parce que les personnages sont très typés, parce que souvent, vous savez, souvent quand on regarde les BD en général, on se demande, mais tiens, qui c'est celui-là, etc. Enfin, ouais, parce qu'ils sont pas très, ils ont pas, comment dire, la personnalité n'est pas suffisamment soulignée. Alors que chez vous, on voit très bien là, je sais pas, 33, on voit très bien, il y a une dizaine de personnages sur la feuille, on voit tous qu'ils ont tous leur personnalité, tous leur physique, etc. Comment vous avez travaillé? Vous avez, par exemple, parmi les enfants, vos enfants, vos neveux, etc., qui ont posé, comment vous avez fait?
On a des amis qui peuvent poser des fois pour nous, mais si vous voulez...
Est-ce que c'est tout dans votre tête,
hein? Non, c'est pas possible.
Ouais, c'est pour ça.
Enfin, pour le moment, j'y arrive
pas. C'est pas stéréotypé, parce que même chez certains grands de la BD, comme Enki Bilal, parfois on regarde, on se dit, ben, c'est un peu stéréotypé. Enfin, s'ils ont un peu la même tête.
Oui, malheureusement.
C'est pas du tout les cas. Est-ce que vous avez voulu être... Est-ce qu'on peut dire que votre dessin est un dessin réaliste? Vous voulez faire un dessin réaliste,
oui, moi,
ou plutôt impressionniste?
Je vais être proche de la réalité. C'est-à-dire que les personnages, quels que soient ces personnages-là, le père Jacques ou d'autres, j'ai besoin d'un support humain qui est réel.
Que ça soit vivant.
Donc on pioche dans tout ce qu'on trouve. Ça peut être des photos, ça peut être des films, ça peut être des arrêts sur image sur des films. Donc on a beaucoup utilisé ça aussi. Par exemple, je ne vous dirai pas les secrets de la BD, mais il y a pas mal d'acteurs plus ou moins connus dans la bande dessinée.
Qui peuvent correspondre à un tel ou un tel personnage psychologiquement, par exemple.
C'est des acteurs des années 50, des acteurs d'aujourd'hui?
N'importe.
C'est ça. J'ai cru reconnaître un ou deux, sincèrement. Je ne vais pas dévoiler lesquels. Je trouve que c'est très original et ça m'étonne un peu, Camille de Prévost, que vous n'avez pas vu le film de Louis Malle. Pourquoi vous n'avez pas voulu être influencé, c'est pour ça?
Je l'ai visionné après.
Après avoir fini?
En fait, oui, après avoir fini le scénario.
Et est-ce que vous avez retravaillé après le film ou pas du tout?
Non. Non, c'était surtout... ça nous a influencé surtout pour les images aussi. Enfin, ça nous a inspiré.
Mais j'ai l'impression que ce qui vous a intéressé, c'est davantage... C'est pas... Parce qu'en France, il est connu surtout pour cet épisode à l'école,
oui.
Quoi, enfin...
Oui, c'est ça.
C'est pour cet épisode à l'école, qui est un épisode très dramatique, et Louis Malle a joué du fait qu'il était dans cette école, il était parmi les élèves. Évidemment, n'étant pas juif, lui n'a pas été déporté, mais enfin, les enfants, ses amis, ses camarades de classe l'ont été. Il y a cette scène très poignante que tout le monde a vue, qui a vu le film, quand le prêtre est arrêté, il se retourne et dit au revoir les enfants. C'est très dramatique, on a envie de pleurer.
Tout le monde en France.
Mais par contre, après, vous vous attardez... cette histoire à l'intérieur du collège est un épisode, quoi, c'est ça, hein?
Oui, c'est ça, parce que comme je ne suis pas née en France, je ne connaissais pas du tout ni le film ni cette scène, donc pour moi c'est un ensemble, quelque chose de complet. Mais la scène est magnifique, hein. C'est bouleversant.
Donc pour vous, ce qui est plus important en fait, c'est ce qui est arrivé après, c'est ça, ce qu'il a vécu dans les camps, c'est ça?
C'est très important, mais pour moi, c'est l'homme, en fait. C'est le père Jacques, du début à la fin. C'est ce qu'il représente, c'est ce qu'il a à dire. Et...
C'est un ensemble aussi. Hein, parce que c'est
le
personnage entier, en fait. Il y a une chose aussi, c'est que dans le film, on rend tellement hommage au père Jacques. Déjà, il s'appelle le père Jean dans le film, ce qui n'est pas son nom. Et puis, on voit un personnage assez terne, en fait.
Hein.
Et puis, on a cette image qui reste, en fait, alors qu'il est tout à fait le contraire.
Il était plein de vie.
Plein de vie, il était truculent. Il plaisantait énormément, il faisait des farces, même.
Il faisait
même
des
assez...
gaffes aussi.
Des gaffes, quel genre de gaffes?
Il était... Il était politiquement pas correct du tout. Il disait ce qu'il pense, en fait. Donc, c'était quelqu'un qui était dans...
Donnez-moi un exemple.
Dans la vérité.
Vous devez donner envie aux lecteurs de lire, aux auditeurs de lire le livre. Donc, il faut donner des exemples. Donnez-moi un exemple. En quoi il était politiquement incorrect à l'époque ? Le principe, le concept n'existait pas. Hein. Mais quoi, par exemple, en quoi il était pas...
Par exemple, il est invité, il parlait très bien. Donc il était souvent invité à faire des homélies avant qu'il soit carme. Donc il a été invité dans une église, une cathédrale, je ne sais plus, c'était au Havre. C'était la région du Havre. Donc il y avait... les paroissiens, c'était des gens, des bourgeois très très riches. Et donc lui, il est arrivé avec ses chaussures de soldat. Et puis il s'est présenté, voilà, je suis fils d'ouvrier et je viens vous parler de Jésus, ouvrier. Du Christ ouvrier. Ouais. Enfin.
Donc déjà, là, c'était bizarre.
Et après, ce qu'il dit aussi, c'est... Parce qu'il voulait toujours créer, soi-disant, un choc psychologique chez ceux qui l'écoutent, mais bon, après, ça lui a échappé aussi parfois, et il n'était pas non plus apprécié par tout le monde, ça, il faut le dire.
Il faut dire aussi qu'avant-guerre, parce que l'épisode dramaturgique que tout le monde connaît, évidemment, c'est pendant la guerre, mais avant-guerre, la France, et notamment beaucoup de catholiques, étaient assez antisémites, enfin, je veux dire, il n'y avait pas du tout le côté « il faut aimer les Juifs ».
Comme partout en Europe.
Oui, un peu comme partout en Europe, exactement. Oui. Donc c'est d'autant plus remarquable qu'il a su... Est-ce qu'on sait pourquoi il a été poussé à sauver les enfants juifs ? Qu'est-ce qui l'a poussé à vouloir sauver les enfants juifs ?
Il était bien au-dessus de ça. Vraiment, il était vraiment au-dessus de ça. Hein.
Au-dessus de quoi ?
Au-dessus de l'antisémitisme ou du racisme. Oui. C'était un vrai chrétien, quoi. Tout simplement. Et puis,
par amour du Christ, quoi.
Jésus était juif, de toute façon, pas oublié.
Ce qui l'avait dégoûté, si j'ose dire, c'était aussi le fait que personne ne voulait aider ses enfants, en fait.
Oui,
personne ne voulait les accueillir.
Ouais.
Et il a aussi proposé, il a employé dans son collège un professeur remarquable, mais un professeur d'origine juive. Donc, il fallait le faire aussi, à cette époque-là. Il est enseigné dans le collège.
C'était en
42, 40. Oui, 42, je crois. Non, c'était pas en 42.
Monsieur
Weil, voilà, donc je trouvais ça très, très, très courageux de sa part.
Oui, c'est un livre très, comment dire, très touchant. Quand on commence à le lire, on n'arrête pas. Pourquoi ? Parce que bon, déjà la BD, ouais, on tourne les pages, c'est sûr. Mais il y a quelque chose qui est attirant en lui. On a envie de le connaître. On sait, si vous voulez, on sait par avance que le martyr est là. Hein, on sait par avance que le martyr est là, bien sûr. Donc il n'y a pas de vrai suspense. Mais en même temps, il y a quand même une sorte de suspense. Et moi, je me souviens avoir lu un livre qui m'a beaucoup bouleversé, qui n'a jamais été traduit en français, qui a été édité aux États-Unis sur Dachau, qui s'appelait Dachau, le plus grand monastère du monde, où il y avait à un moment donné des milliers de prêtres et de moines catholiques, notamment beaucoup de Polonais qui étaient à Dachau. Et qui priaient ensemble. Enfin, il y avait des évêques. Enfin, c'est comme une église. Enfin, comme une grande, qui était à Dachau. Et j'ai un peu retrouvé cette idée ici. Hein.
Qu'est-ce qui ressemble à un camp de concentration, sinon à un autre camp de concentration ? Je crois que là, c'est Mauthausen, mais Mauthausen, Dachau. Je pense pas qu'il y avait une différence fondamentale entre ces camps-là. Quoi. C'est le même arbitraire qui règne à l'intérieur, c'est les mêmes brutes en uniforme, etc. Quoi. Donc oui, il y a une résistance. La résistance a continué, en fait, à l'intérieur du camp, Jacques, qui a continué la résistance.
Mais ça ne vous a pas frappé, madame, que aussi, j'ai l'impression aussi que ces chrétiens qui étaient dans le pouvoir nazi était très anti-chrétien, hein, mais qu'ils étaient un peu comme les premiers chrétiens persécutés par Rome aussi. Il y avait quelque chose là qui est très antique.
Oui,
il y avait quelque chose de très antique.
Ah,
hein.
Oui, bien sûr.
Oui.
Ça vous a frappé aussi.
Oui.
Hein.
Oui, aussi.
Mais du reste, ils
font... Les messes clandestines.
Les messes clandestines.
Oui, les messes clandestines.
C'est tout à fait ça.
C'est tout à fait ça. Ouais.
Puis ils subissent l'humiliation avec la...
quotidienne.
La croix, en fait.
La poutre.
Pardonner,
et puis comment rester un homme, comment garder sa dignité dans des conditions pareilles.
Oui.
Et il y a une multitude de personnages, c'est très impressionnant, parce que ça aussi, c'est rare, en général, dans les BD, il y a deux, trois personnages, et puis des personnages annexes, quoi.
Oui.
Mais chez vous, il y a vraiment beaucoup de personnages.
Oui,
beaucoup de personnages. Comment vous avez travaillé ces personnages ? Est-ce que vous aviez travaillé un par un, ou bien ça venait comme ça ? Comment est-ce que vous avez construit l'histoire ?
D'abord, ce sont des personnages qui ont vraiment existé.
Tous.
Donc, tous. Sauf le reporter, Hubert Bonafou, qui ouais. qui mène
même
cette
les,
enquête.
Même les, nazis, même les nazis, ou les nazis, vous les avez inventés?
Ils
ont tous existé. Même Chieftaine, même les nazis. Oui, tout est vrai.
Sauf
le personnage du reporter.
Je comprends. Oui, c'est un personnage fictif. Est-ce que vous avez abordé, Jean-Trelet, les personnages fictifs autrement que les personnages réels ou non?
Ah non, pas du tout. Mais non, ce sont des... On n'est que des êtres humains dans cette BD, vous voyez. Des êtres humains, donc tous méritent notre entière attention, en fait.
Et le camp qu'on voit, c'est le camp de Mauthausen, vraiment?
Ah, c'est Mauthausen, oui. Ça, c'est,
oui, c'est très documenté.
Il est comme ça, oui. C'est une espèce de forteresse, comme ça, impressionnante et... Non, c'est Mauthausen.
Et les baraquements, quand on voit les baraquements, c'est les mêmes baraquements? Vous avez un peu inventé les baraquements?
Les baraquements...
On a regardé beaucoup de films documentaires.
Oui, on a aussi, vu, mais vous savez...
Mais c'est un peu le même schéma.
C'est ça, dans tous les camps, c'est le même schéma de baraquements. Ils ont fait quelque chose de fonctionnel, en fait, les nazis. Voilà, et c'est un peu toujours les mêmes, quoi.
Oui. Et le martyr chrétien, c'est quelque chose qui vous a intéressé, Camille de Prévost, ou non? Ou bien au départ, vous voulez juste raconter l'histoire?
C'est très complexe. Je suis peut-être arrivée à cette question après. C'est surtout l'épisode de la poutre.
Racontez-le.
Donc on lui fait porter une poutre. C'est très christique.
Au Père Jacques,
oui. Autour d'un bassin, en fait. Je crois qu'il y a déjà des cadavres dedans. Et c'est une poutre qui a 2-3 mètres. C'est très, très lourd. Il est tout nu. Donc, il doit la porter, en fait. Il veut le tuer comme ça. Donc, il pense qu'il va mourir. Et en fait, il ne meurt pas.
Il va jusqu'au bout.
Et c'est là que j'ai découvert dans ces lettres qu'il y avait des passages sur la souffrance, sur l'humiliation. Je me suis dit qu'en voix off, à ce moment-là, on peut les écrire, on peut les citer.
Mais on ne sait pas exactement ce qu'il pensait. Hein.
Non.
Chez vous...
On ne sait pas, je ne peux pas le savoir.
Mais est-ce que vous vous êtes posé la question
souvent, je me suis posé cette question.
Vous avez peut-être imaginé ce qu'il pensait, non?
Disons que j'étais inspirée après.
Inspirée par quoi?
L'inspiration, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. C'est-à-dire que je ne cherchais pas vraiment ce qu'il pouvait dire, mais ça venait en fait tout de suite. C'est que je le trouvais tout de suite.
Vous étiez un peu en lui, en quelque sorte.
Voilà. Je pense qu'il m'a beaucoup aidée, oui.
Vous avez senti ça quand vous avez lu le scénario?
Oui, j'ai senti ça.
Ouais.
Qu'il était là, en fait.
Oui, c'est ça. J'ai très fort senti ça. J'ai tout de suite senti qu'il y avait dans le travail avait quelque chose de, parce que le sujet n'est pas personnel. Vous parlez pas de vous.
Mais
j'ai senti qu'il y avait quelque chose de personnel.
Je ne sais pas
comment expliquer ça.
C'est une bonne remarque parce que
c'est un compliment. Hein.
Je me suis mise à sa place et d'où en fait les lettres qu'il écrit tout au long du livre qu'il adresse à un mystérieux cher ami. On ne sait pas qui c'est, en fait, parce qu'il a écrit beaucoup de lettres. Donc, c'est une sorte de synthèse de toutes ces lettres. Et là où il se confie, il parle vraiment de lui-même, parce que c'était quelqu'un de très réservé. Et je me suis dit que ce cher ami...
Mais on ne sait pas qui est ce cher ami.
Non, on ne sait pas. Et je me suis dit que
c'est toujours le même.
C'est toujours le même.
C'est peut-être le Christ.
C'est peut-être nous, c'est peut-être le lecteur, c'est peut-être Hubert Bonafou. Ça peut être tout le monde, en fait. Et je me suis dit, ça serait bien... Voilà, il s'adresse à nous, quelque part... Et il nous parle parce qu'il est là. Parce que c'est comme dans les camps, il voulait être là, il voulait être présent. Et même aujourd'hui, quelque part, son message est là.
Ce qui est impressionnant, en fait, c'est qu'il est dans le camp, il souffre comme tout le monde, mais il pense plus aux autres qu'à lui-même.
Hein. Ah, il ne pense pas du tout à lui-même.
Il ne pense pas du tout à lui-même.
Alors, mais vraiment, vraiment même.
Pas du tout. Pas
du
tout. Il n'a pas le temps, en fait.
Pas du tout.
Il pense aux autres uniquement, exclusivement, en fait. Mais il a écrit des choses comme ça bien avant, déjà, que... Sa vocation, c'était aussi de penser aux autres, se mettre à la place des autres.
C'est, on peut dire que c'est la vocation d'un prêtre chrétien. Oui, mais là, quand même, le côté extrême, quoi,
très extrême.
Ouais. Non seulement de sa vie, mais de toute la situation, etc.
Très extrême, absolument.
Ouais. Pourquoi vous avez appelé au revoir les enfants? Parce que si vous avez dépassé ce côté-là, vous vouliez vous rapprocher un peu au film, c'est ça? Il reste une minute, hein.
C'est la phrase du Père Jacques, oui, c'est ce qu'il dit vraiment, le titre du film.
On ne pensait pas le mettre parce que ça faisait référence au film au départ, l'éditeur a pensé que c'était bien de le mettre, et parce que de toute façon c'est vrai, c'est la phrase du Père Jacques, voilà.
Merci beaucoup Jean Trollet, merci beaucoup Camille de Prévost. C'est un livre que je recommande chaleureusement, Revoir les enfants, la véritable histoire du Père Jacques, prêtre déporté juste parmi les nations. C'est aux éditions du Rocher et c'est un roman graphique, donc une bande dessinée de 130 pages qui vraiment raconte cette histoire incroyable. Vraiment une très belle histoire qui est à la fois nous plonge dans l'histoire, la grande histoire et en même temps la petite histoire de tous ces gens qui ont résisté comme ils l'ont pu et sans parfois se rendre compte qu'ils résister. À demain.